Bonjour et bienvenue dans ce premier dimanche de l'après-confinement. C'est une joie pour moi de vous retrouver pour que nous puissions offrir à notre Dieu un culte ensemble. Et malgré notre séparation physique, nous sommes réunis par son esprit. Je vous propose de chanter avec moi le chant « J'aime l'Éternel ». Pendant cette période, nous avons ressenti combien nous étions dépendants de la grâce et de la paix de Dieu. Je vous propose de lire un psaume, probablement les paroles bibliques les plus connues, et ce n'est pas pour rien. Il s'agit du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit, et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront. Et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Ce sont des paroles apaisantes, réconfortantes, n'est-ce pas? Lorsque nous venons à Dieu pour lui offrir un culte, nous venons avec tout ce qui fait notre vie. Nous venons avec l'envie de le célébrer, nous y venons avec nos joies, nos inquiétudes, nos espoirs, nous y venons chargés par l'actualité. Et ce texte du berger qui prend soin de ses brebis vient résonner en nous pour nous réconforter, nous apaiser. Et c'est de ça précisément dont nous avons besoin. Pourtant, des nouvelles encourageantes ont vu le jour durant cette période de confinement. Le dévouement du corps médical, présent sur tous les fronts, l'élan de solidarité envers les soignants et les aînés, et les nombreuses initiatives sociales qui sont apparues pour assister les plus démunis. Ce temps de confinement nous a permis de nous recentrer sur des valeurs familiales. La limitation de nos déplacements nous a rapprochés des commerces de proximité et freiné notre surconsommation. Pendant ce temps de crise sanitaire, nous pouvons nous réjouir du regain d'intérêt de nos contemporains pour le spirituel, le besoin de se rapprocher de Dieu. Il a été établi une augmentation très importante de ventes de Bibles et de littérature chrétienne. Et parmi les mots-clés les plus recherchés du moment sur Google figurent les mots « paix », les mots « Dieu » ou « prière ». Oui, cette pandémie a changé la donne. D'aucuns disent que plus rien ne sera jamais pareil, qu'il y a eu un avant, qu'il y aura un après. En fait, personne ne sait vraiment. Ce que nous savons d'une manière sûre, c'est que notre après sera avec Dieu, parce que nous nous sommes placés sous sa grâce et que nous savons que la paix de Dieu, malgré toutes les circonstances, demeure avec nous. Elle est notre force et nous sommes sûrs de son amour. Je vous invite à chanter avec moi le chant Yahweh.
L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai, ô mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis, ô mon âme, chante mon âme. Mais toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, ô mon âme, chante mon âme. Puisqu'il mène le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh.
Bonjour les enfants, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ce matin, je voudrais vous raconter une petite histoire. Il y était un jour un roi qui dit au sage de sa cour « Je veux créer une bague spéciale. J'ai acheté l'un des plus beaux diamants du monde et je veux cacher dans l'anneau un message qui puisse servir dans les moments difficiles. Ce doit être une phrase courte que je placerai sous le diamant de la bague. » Tous ceux qui l'écoutaient étaient des sages. Ils réfléchirent longtemps, mais en vain. S'il pouvait écrire de gros livres, il n'était pas capable d'écrire un message court, qui ne contenait pas plus de deux ou trois mots et qui puisse en plus aider dans les moments difficiles. Le roi avait été élevé par un vieux serviteur. Lorsque la mère du roi mourut prématurément, c'est ce serviteur qui prit soin de lui. Il fut donc traité comme un membre de la famille. Et le roi, qui éprouvait un grand respect pour le vieil homme, décida d'aller le consulter. Le vieil homme lui dit « Je ne suis ni sage ni savant, mais je connais bien un message. On me l'a transmis quand j'étais petit et cela m'a beaucoup aidé durant ma vie au palais. » Le vieil homme écrivit quelque chose sur un morceau de papier, le plia et le tendit au roi. « Mais ne le lisez pas. Gardez-le caché et ne l'ouvrez que s'il n'y a pas d'autre choix. » Des années plus tard, il y eut une invasion du royaume et le roi perdit la bataille. Il s'enfuit sur son cheval, mais ses ennemis le suivirent. Il était seul, et les ennemis étaient nombreux. Il atteignit l'endroit où la route se terminait. Il n'y avait pas d'issue. Devant lui, un précipice donnait sur une vallée profonde. La chute serait fatale. Il ne pouvait pas revenir en arrière. Les ennemis avaient traversé le chemin et ils pouvaient entendre le bruit de leurs chevaux. Il n'y avait pas moyen de s'en sortir. C'est à ce moment-là qu'il se souvint de la bague. Il l'ouvrit, sortit le morceau de papier et lut le message court mais précieux. « Cela passera aussi. » Lorsqu'il lut le message, il sentit un grand silence l'envelopper. Les ennemis qui le poursuivaient s'étaient peut-être perdus dans la forêt, ou bien ils étaient peut-être partis dans la mauvaise direction. En tout cas, on n'entendait plus les chevaux. Le roi fut reconnaissant envers le serviteur. Ses mots étaient merveilleux. Il plia le morceau de papier et le remit sous la bague en diamant, puis il rassembla son armée et rentra au royaume. Il retourna au palais avec un sentiment de triomphe. Il organisa une grande fête avec des chants et avec des danses. Il se sentait vraiment très bien. Le vieux serviteur se tenait à côté de lui et lui dit « Ce moment-là aussi est approprié. Regardez à nouveau le message. Mais je viens de gagner. Les gens célèbrent mon retour. Je ne suis pas désespéré, je ne suis pas non plus dans une impasse. » Et le vieux serviteur répondit « Écoutez-moi. Ce message est utile lorsque vous êtes battu, mais également lorsque vous gagnez. » Le roi ouvrit la bague et lut le message « Cela passera aussi. » De nouveau, il ressentit la même chose, un silence qui l'emplit bien qu'il fût dans une foule qui célébrait et dansait. Sa fierté et son ego avaient disparu. Le roi avait compris le message, il était éclairé. Le vieil homme lui dit « Vous souvenez-vous de tout ce qui vous est arrivé ?» Rien ni aucune émotion ne sont fixes. Il y a le jour et la nuit, des moments de bonheur et des moments de tristesse. Acceptez-les comme une partie naturelle des choses, parce qu'elles font partie de la vie. Cette histoire, elle me rappelle un passage que nous trouvons dans la Bible, dans l'Ecclésiaste au chapitre 3. C'est le roi Salomon qui l'a écrit, et on peut y lire notamment qu'il y a un moment pour tout, et un temps pour chaque chose sous le soleil. Il y a un temps pour donner la vie, et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher, un temps pour guérir et un temps pour tuer, un temps pour construire et un temps pour détruire. Ce que je veux vous dire ce matin avec cette histoire et avec ce passage de la Bible, eh bien, c'est que en fait, dans la vie, il y a des fois des moments difficiles. Par exemple, nous venons de vivre et nous vivons encore des moments difficiles à cause de ce virus qui est actuellement parmi nous. Nous avons dû être confinés, vous n'avez peut-être pas pu voir vos copains, vous n'avez pas pu sortir comme vous vouliez pendant plusieurs semaines, vous avez dû faire des devoirs à la maison, peut-être supporter votre frère ou votre sœur, ça n'a pas toujours été facile, mais vous voyez, cela est passé aussi. Et même aujourd'hui, peut-être vous pouvez avoir des peurs ou des inquiétudes parce que vous voyez des adultes avec des masques dehors, ou bien parce que vous avez repris l'école et qu'on vous demande d'obéir à plein de règles nouvelles, vous voyez vos professeurs avec des masques, et puis on vous a dit que vous ne pouviez pas faire encore des câlins comme avant, aux grands, et que vous ne pouviez pas encore voir autant de copains que vous aimeriez. Mais je veux vous dire une chose. Cela passera aussi, et un jour ce virus, eh bien, on n'en parlera plus. Mais je veux vous dire aussi qu'il y a des bonnes choses dans la vie. Par exemple, passer de bons moments avec nos parents dehors, ou bien jouer avec nos copains ou nos copines, ou bien aller visiter nos grands-parents. Ces moments-là, ils sont précieux, il faut en profiter à fond. Ça ne sert à rien de chercher à se disputer avec les copains et les copines quand on joue avec eux, ou ça sert à rien de dire à nos parents « Non, je veux pas sortir aujourd'hui. » Non. Profitez au contraire, profitez de ces moments-là pour être avec ceux que vous aimez et pour vivre de belles choses avec eux. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Alors je sais que certains ont repris l'école, mais d'autres sont peut-être encore à la maison. Alors pour cette semaine, je voudrais finir en vous laissant une petite activité. Prenez une feuille de papier, coupez-la en 8, prenez un petit bout de papier et comme dans l'histoire, écrivez 2 ou 3 mots dessus, ceux qui vous viennent à l'esprit. des petits mots gentils, des petits mots d'amour. Puis, plier le papier. L'idée, c'est de prendre ce papier et de le cacher, soit dans votre maison, soit chez quelqu'un d'autre. Le but, c'est de le cacher pour que quelqu'un à qui vous le destinez, ce papier, eh bien, puisse le trouver. Par exemple, dans la boîte à bijoux de votre maman ou sous l'oreiller de votre papa. Ce qui vous vient comme idée. De telle sorte que quand votre papa ou votre maman ou la personne à qui vous aurez préparé ce papier le trouve, eh bien, il lira ce papier et il sera content et heureux de lire ce petit mot que vous lui avez préparé. Un petit mot qui pourra dire, par exemple, « Je t'aime » ou « Je te souhaite une bonne journée ». Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain.
Nous lirons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, versets 1 à 8. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qu'il s'était choisi comme apôtres. Après sa mort, il se présenta à eux vivants et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du royaume de Dieu. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. « C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. » Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Il leur répondit « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » En ces temps de confinement, déconfinement, on a tous été obligés de réinventer sa vie. Et les églises n'ont pas échappé à la règle. Elles ont dû faire preuve d'un peu d'imagination pour se réinventer quelque peu. Mais ce n'est pas la première fois que l'église se réinvente. Plusieurs fois, au cours des siècles, l'église a dû repenser son fonctionnement et sa présence au monde. On peut penser à la Réforme, par exemple. Mais on peut penser aussi au tout premier jour de l'histoire de l'Église. Celle-ci n'a pas dû se réinventer, mais carrément s'inventer. L'Église a dû s'inventer. Et si je vous parle des tout débuts de l'Église, c'est parce que je vous propose dans ces prochains dimanches une série de prédications sur le livre des Actes des Apôtres, qui nous parle des tout débuts de l'Église, de l'invention de l'Église en quelque sorte. Il y aura, on le verra, l'Ascension la semaine prochaine, et puis la Pentecôte dans 2 semaines, et puis les premiers défis de l'Église. Et cette série nous permettra, chemin faisant, de faire des parallèles, de tirer des leçons, non seulement pour notre vie d'Église, mais aussi pour notre vie de foi. Et je vous propose de voir ce début de l'Église comme un film, avec le clap du début, « Silence, on tourne », qui marque le début d'une scène. Le clapman fait claquer son clap et tout le monde sur le plateau se tait, sauf les acteurs, puisqu'ils sont censés débuter la scène. Le livre des Actes, 1, scène 1. Alors, dans un film, il y a toujours des acteurs. Et le mot « acte » d'ailleurs fait penser à ce mot « acteur » ou à « action », à « activité ». Et qui sont les acteurs dans le livre des Actes? Le titre donné au livre dit « acte des apôtres » ou plutôt « acte d'apôtres » sans qu'il soit défini. Les apôtres, les actes d'apôtres, littéralement « apôtres », les envoyés. Alors on pense effectivement aux 12 disciples devenus apôtres. On peut penser à Pierre, Jacques et Jean, qui sont les plus connus et peut-être les plus actifs, mais aussi les autres, Paul, l'apôtre Paul par exemple, ce sont les acteurs principaux du livre des Actes. Et puis, il y a un autre acteur qui apparaît très souvent dans le livre, au moins 57 fois. C'est le Saint-Esprit, omniprésent et très actif dans le livre des Actes. D'ailleurs, il est là, dans le paragraphe que nous avons lu tout à l'heure, dès le verset 4. Et rien ne se fera sans lui dans le livre des Actes, et on aura l'occasion d'en parler, de cette action du Saint-Esprit. Et puis, il y a aussi dans le livre des Actes les églises qui jouent leur rôle, celle de Jérusalem, mais aussi celle d'Antioche, celle d'Éphèse. Des églises qui n'ont pas encore de bâtiment, mais qui ont des gens, des êtres de chair et de sang comme nous, avec leurs forces et leurs faiblesses comme nous, avec leurs convictions et leurs ambiguïtés comme nous, des personnes qui ne font pas de la figuration, mais qui sont en plein dans le film des actes des apôtres ou des actes de l'Église. Et donc voilà les rôles principaux, avec dans l'ordre d'apparition les apôtres, le Saint-Esprit, les Églises, et puis ces hommes et ces femmes qui sont acteurs par le Saint-Esprit dans la vie de l'Église et dans leur propre vie de foi. Acteurs et non pas spectateurs, et surtout pas figurants. Non, vraiment acteurs. Et nous, sommes-nous également acteurs ? Et puis on dira un mot sur le réalisateur, sur l'auteur. Il s'agit de Luc, celui-là même qui a écrit le troisième évangile. Et d'ailleurs, les deux livres, il en parle au premier verset du chapitre 1 des Actes, les deux livres se font suite. On pourrait parler, et on parle même de fondu enchaîné entre le dernier chapitre de l'évangile de Luc et le premier du livre des Actes. Pour dire que c'est la même histoire qui continue, c'est l'histoire de Jésus ressuscité qui se prolonge dans les actes des uns et des autres. Et ce qui est intéressant avec Luc, c'est qu'il n'est pas comme les autres, ce n'est pas un pêcheur juif galiléen comme au moins quatre des disciples de Jésus. Ce n'est pas un disciple et ce n'est pas un type qui est tombé dans la marmite quand il était petit. Non, c'était un médecin grec qui écrit très bien le grec commun de l'époque, qui a, nous dit-on, une bonne éducation académique, qui a été formé à la rhétorique. Mais surtout, ce qui est particulier et ce qui est intéressant, c'est que ça soit un gars de l'extérieur, un outsider, comme j'aime les appeler. Quelqu'un de l'extérieur, et on les aime, les outsiders dans l'Église de Jésus-Christ. Alors malgré tout, on sent sous la plume de Luc qu'il a une certaine connaissance de la foi juive, et il connaît bien la Septante, c'est-à-dire la version grecque de l'Ancien Testament. On peut penser qu'avant de devenir chrétien, il a été attiré par le judaïsme, qui diffère tellement du paganisme ambiant et qui est très décevant. Intérêt pour la religion juive, mais aussi un intérêt pour ce charpentier juif de Nazareth, qui revisite le judaïsme et qui l'accomplit pleinement. Luc était chrétien quand il réalise le film des Actes des Apôtres. Et puis, Luc va faire un travail d'historien. Et c'est d'ailleurs le premier point que l'on peut relever dans le scénario du livre des Actes, écrit par Luc, c'est son insistance sur le côté historique des événements liés à Jésus. Scénario, point 1, insistance sur l'histoire. Et dès le verset 3, Luc précise que Jésus s'est présenté vivant à ses disciples. Il s'est fait voir et qu'il leur donne, je cite Luc, des preuves nombreuses de sa résurrection. C'est bien lui, c'est bien Jésus. Il est vivant dans un corps personnel. Et quand Luc parle de preuves, il utilise un mot grec très fort qui désigne, depuis Aristote, une preuve contraignante. Un auteur classique écrit « Là où l'indice est irréfutable, il n'y a pas non plus de contestation ». Une preuve contraignante. Et le réalisateur du livre des Actes veut montrer que la résurrection de Jésus est incontestable puisqu'il y a des preuves contraignantes. Et c'est important parce que toute l'histoire part de cet événement historique. Toute l'histoire du livre des Actes et toutes nos histoires et tous nos actes. Et tout le livre des Actes s'appuie sur des recherches historiques approfondies. Luc vérifie ces informations comme on ne le fait pas toujours sur les réseaux sociaux. Il appelle, par exemple, les responsables politiques de la ville de Philippe des stratèges. Et ceux de Thessalonique, il les appelle des politarques. Deux noms différents, parce que c'est comme ça qu'à Philippe, la ville de Philippe, on appelle les dirigeants, et c'est comme ça dans la ville de Thessalonique qu'on appelle les dirigeants. Et c'est comme ça qu'il faut les appeler. Et on peut vérifier. Il y a chez Luc un souci d'exactitude assez remarquable. Alors que faire de ce travail d'historien chrétien ? Eh bien, je crois qu'on peut parler tout simplement de confiance. Confiance au récit que Luc nous fait. Alors bien sûr, il veut nous amener quelque part. Il a une intention, comme tous les auteurs. Mais en même temps, il ne cherche pas à nous tromper ou à fabriquer un mythe miteux. Il ne cherche pas à nous faire gober une histoire à dormir debout. Luc est un type de l'extérieur, médecin, historien, sérieux, et on peut lui faire confiance dans l'histoire qu'il nous raconte. Et j'ajoute que confiance et foi sont deux mots très proches. Et si on peut faire confiance, on peut aussi avoir foi, ou avoir même la foi. Et lors du parcours Alpha, j'aime beaucoup cette illustration que l'on utilise pour parler de la foi, c'est s'appuyer de tout son poids, comme on s'appuie sur le dossier d'une chaise, mais appuyer de tout son poids sur quelque chose ou sur quelqu'un de solide. Une question pour terminer ce paragraphe. Où en est notre foi, votre foi, toujours en débat, toujours en doute sur les questions essentielles? Et je me disais que justement dans les périodes de doute ou de combat, il était utile de se souvenir que cette histoire de Jésus, cette histoire d'une bonne nouvelle de la part de Dieu, bonne nouvelle de son amour manifesté en Jésus-Christ, que cette histoire était pour un type comme Luc de l'information vérifiée. Et je crois que dans les périodes de sécheresse ou d'épreuve, comme nous traversons actuellement, il faut pouvoir se souvenir du fondement historique de la foi, parce que c'est ça qui nous tient debout. Et c'est ça qui nous permet de persévérer. Je suis chrétien non pas parce que être chrétien me fait du bien ou me fait me sentir bien. Je suis chrétien non pas parce que ça me rapporte quelque chose d'être chrétien, mais je suis chrétien parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai, Jésus va appeler ses disciples qui n'ont pas encore fait grand-chose depuis la résurrection. Il va leur demander de devenir des témoins de cette vérité-là. Des témoins et à l'être ces témoins à travers le monde, avec cette phrase magnifique « Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre ». Et c'est le deuxième point important du scénario du film des Actes. C'est cette ouverture au monde. Et au verset 6, les disciples, encore spectateurs, posent une question assez fermée. « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Une question très centrée sur leur petit monde. Mais Jésus va répondre en ouvrant tout grand les portes vers le monde entier. « Vous serez mes témoins jusqu'au bout du monde, » dit-il. Il est intéressant de noter que la question fermée des disciples portait sur le « tu, toi Jésus, quand est-ce que tu vas rétablir le royaume ?» Et Jésus va répondre « par le « vous ». Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez une puissance. » Et vous serez mes témoins. Les acteurs du film qui va commencer, ce sera vous, ce sera toi. Mais ce sera vous dans la mesure où vous recevrez cette puissance qui vous dépasse et qui s'appelle le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Et on a parlé du rôle principal de l'Esprit dans le livre des Actes, et c'est lui qui va donner du souffle à ce film, qui va lancer une dynamique qui va donner l'inspiration à tous les acteurs et même un peu de puissance. L'Esprit va jouer son rôle pour que nous puissions jouer notre rôle dans notre vie de foi. Et donc cette histoire qui s'ouvre dans le livre des Actes, c'est l'histoire de témoins bien fragiles, bien faibles, mais qui vont être saisis, qui vont être pris par cet Esprit Saint, qu'il faut le rappeler, c'est l'Esprit de Jésus. Et ils vont faire des choses incroyables avec cet Esprit au niveau du témoignage rendu à Jésus. Dieu, par son Esprit, nous fait missionnaires, nous fait ambassadeurs, nous fait témoins. Petite question à la fin de ce paragraphe. Allons-nous compter sur son Esprit pour devenir véritablement un témoin? Et puis Jésus va leur parler du terrain d'action. Ce champ d'action, ce n'est pas simplement Jérusalem qui est le centre du monde à l'époque, mais le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'au bout du monde, nous dit Jésus. Et Jésus élargit fameusement l'horizon de ses disciples. Alors, on a déjà beaucoup parlé de ces cercles concentriques, Jérusalem, Judée, Samarie, le bout du monde, les cercles concentriques qui vont du plus proche au plus éloigné, mais il faudrait plutôt parler de cercles excentriques. On ne va pas vers le centre, vers soi, mais on se met en route vers l'extérieur. Et il y a là un appel à voir large, il y a là un appel au large, un appel à l'ouverture. Et on n'a pas le temps de passer en revue les différents cercles et trouver des applications, mais on doit retenir que ce début du livre des Actes est une mise en route. Parce que Jésus est ressuscité, parce qu'il est mort et qu'il est ressuscité, il nous met debout, d'abord sur le socle de son amour et de son pardon, bien solidement ancré dans l'espérance de la résurrection, et puis il nous met en route pour devenir des témoins jusqu'au bout du monde. J'ai lu il y a quelque temps, bien avant l'épidémie, il y a même 2 ans, il y avait dans le Télérama une enquête sur les 16-25 ans, et j'ai lu cette phrase qui m'a sauté aux yeux. Il paraît que nous les parents, enfin de moins en moins nous, mais les parents, les cadras ou les quinquas, on a donné ou on donne encore le message suivant aux enfants. Je cite, ouvrez les guillemets, c'était dans le Télérama. « Faites ce que vous voulez dans la vie, mais ne prenez pas de risques. » En réfléchissant, je me disais que c'est bien possible que le message que l'on donne à nos enfants, que l'on a donné à nos enfants, était un petit peu de ce genre, et ça l'est de plus en plus d'ailleurs. Faites ce que vous voulez, mais ne prenez pas de risques. Alors, on veut les protéger, c'est certain. Mais on transmet en même temps une sorte de peur du monde. Mais notre Père qui est aux cieux nous donne un autre message. Il nous dit, faites ma volonté parce qu'elle est bonne et parfaite, et puis prenez des risques pour moi. Mettez-vous en route pour et avec moi, par le Saint-Esprit. Prenez des risques, allez au bout du monde, à Vierzon même, s'il le faut, car là où vous allez, j'y serai aussi. Et je serai avec vous, vous ne le regretterez pas. Alors nous n'avons pas encore les moyens d'aller au-delà de nos 100 kilomètres, mais je crois que nous avons besoin tous d'être déconfinés, d'abord dans notre tête, et qu'il nous faut laisser l'Esprit de Christ nous parler et élargir notre horizon pour que nous puissions poser des actes, non pas des apôtres, mais des actes d'un témoin, c'est-à-dire de quelqu'un qui rend témoignage de Jésus, de Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie, celui qui est mort et qui est vraiment ressuscité. C'est un beau programme, n'est-ce pas? Un programme très ouvert et surtout ouvert à tous. Amen. Je vous invite à chanter maintenant ce chant qui s'intitule « Viens, règne en moi ». Libre de nos chaînes et de nos peurs, nous voulons marcher vers toi, nous mettre en route pour, comme le dit le chant, proclamer ta grâce au creux de la nuit. Chantons ensemble. Voilà, nous aurons le temps d'offrande et on veut simplement vous dire, le conseil et moi-même, merci pour votre fidélité dans ce domaine, malgré les circonstances particulières. Et il faut continuer à le faire, mais notre état d'esprit est dans la reconnaissance. Et puis quelques annonces. Mercredi ou jeudi prochain, vous recevrez par mail la méditation sur le Notre Père, et puis une liste de sujets de prière. Merci aussi pour votre fidélité dans ce domaine-là. Dimanche prochain, culte en ligne encore. Nous ne sommes pas déconfinés. Et d'ailleurs, un petit mot sur ce déconfinement au niveau des cultes. On attend toujours les instructions du ministère de l'Intérieur. Fin mai, début juin. Mais le conseil de l'église de Cannes, et qui s'est réuni par Zoom cette semaine, se dit que ça ne sera pas avant le 7 juin, et il faudra nous organiser. On réfléchit à comment on pourra faire pour ne pas prendre de risques inutiles à ce niveau-là. Le CNEF, le Conseil National des Évangéliques de France, nous invite à la prudence, parce qu'un rassemblement de plusieurs dizaines de personnes pendant un temps prolongé dans un espace confiné pose vraiment un problème de contamination. Même s'il nous tarde de vous revoir et de vivre à nouveau nos rassemblements, il nous faut patienter encore. De même pour les groupes de maison. Même si les rassemblements de moins de 10 personnes sont permis, le Conseil de l'Église a décidé de ne pas relancer les groupes de maison durant ce mois de mai. Là aussi, la notion de prudence est importante. Alors, vous pouvez bien sûr, à titre privé, réunir des amis chez vous, hein, mais ce ne sera pas un groupe de maison officiel de l'Église. On vous encourage, même dans votre comportement de tous les jours, à rester prudent également. Dimanche 28 juin, nous aurons nos assemblées générales qui devaient avoir lieu le 15 mars. Alors, elles auront lieu, les deux assemblées générales, soit en présentiel, soit sur Zoom. On attend encore l'évolution de la situation. Et puis, notre week-end d'église aura lieu au lieu-dit La Pastorale, aux confins du Var et des Bouches-du-Rhône, autant dire le bout du monde, le week-end du 10 au 11 octobre prochain. Un petit flyer va vous être envoyé, mais pour l'instant, nous voulons juste vous demander de réserver cette date et de vous encourager surtout à venir à cet incontournable week-end d'octobre, le 10-11 octobre prochain. Et puis, n'hésitez pas à visiter notre site, comme vous le faites déjà. Merci pour tous les encouragements que nous recevons ces derniers temps. Continuons à penser aux uns et aux autres dans la prière. Et c'est Marie-Christine Nollet qui va nous conduire dans la prière d'intercession.
Seigneur, tu connais mieux que quiconque nos inquiétudes, nos besoins, ce qui fait nos joies, ce qui fait nos peines, mais tu aimes aussi entendre et recevoir nos prières. Ce matin encore, Père, nous te remettons avec foi l'actualité de notre monde, ce monde que tu as tant aimé et qui traverse une crise d'envergure. Incline le cœur et l'intelligence de nos dirigeants à rechercher la paix et le bien des peuples. Nous te prions particulièrement pour nos familles, chargées de bien des inquiétudes face à l'épidémie, aux difficultés économiques, au spectre du chômage et au devenir de leurs enfants. Nous te prions pour nos frères et sœurs éprouvés par la maladie. Nous pensons à Carole Levasseur, à Junie, à tous ceux que nous portons dans notre cœur et que tu connais, à nos aînés si vulnérables et plus isolés que jamais. Nous te confions notre communauté et notre couple pastoral, te demandant de les bénir et de veiller sur eux. Apporte à chacun la véritable paix que toi seul peux donner et qui, loin des soucis de la vie, gardera nos cœurs et nos pensées en toi, notre bon berger.
Une parole d'envoi pour terminer ce culte. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le boisseau. Va, j'ai mis en toi ma parole, te dit le Seigneur. Vis pleinement chacun des jours que je te donne. Va, répands, partage, sois mon témoin. Et je vous invite à vous lever, si vous le pouvez, pour recevoir la bénédiction de la part de notre Seigneur. Sur nos chemins escarpés ou sur nos grandes routes, dans nos maisons ou au cœur du monde, parmi nos frères ou au milieu d'inconnus, où que nous soyons, l'Éternel est là. Où que nous soyons, il nous accompagne. Il nous aime, il nous met en route, il garde nos pas. Allons dans la paix, allons dans la joie de notre Seigneur. Amen. Bonne route, bon dimanche et bonne semaine.